tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, mon nom est Tommy Godette, déjà un huitième épisode de ce podcast entièrement dédié à Magic the Gathering ou Magic le ramassis. Comme d'habitude, je suis flanqué de Jason Keys.
Bonjour, bonjour.
Salut Jason, des grosses nouveautés cette semaine?
Écoute, pas mal, on va en parler pendant le podcast.
C'est parfait. Et on a aussi notre bon pote et technicien Andy Jout. Comment ça se passe, mec?
Ça se passe bien.
C'est bon, ça?
Et j'ai hâte qu'il neige.
Ben ouais. Donc, on attend l'hiver à voir si tu manges.
Et en même temps, ça va décrire si s'il y a neigé, ben j'étais un menteur.
Et voilà. Sinon, en fait, ce que vous entendez en background aujourd'hui, c'est Dragon Quest 2. À l'époque, c'était sorti en Amérique du Nord sous le nom de Dragon Warrior 2, parce qu'il y avait déjà un autre jeu vidéo qui s'appelait Dragon Quest, et donc ils ont changé le nom. Dans The Resellers, la joke, c'était que ça s'appelait Dragon Quest au Japon, parce qu'il n'y avait pas de Warrior au Japon. C'était la joke qu'on avait faite dans les Resellers. Claro. Mais sinon, ben voilà, Dragon Quest 2, une des meilleures suites de toute l'histoire de la vie. Un excellent jeu vidéo, presque impossible à terminer si t'as pas le Nintendo Power. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler Magic the Gathering. Et non, cette fois-ci, les jeux vidéo ont un petit peu rapport, parce qu'elle dit, comme sujet de début d'émission, tu voulais qu'on parle de médias alternatifs dans lesquels Magic sont allés. On sait que Magic, il y a des romans qui racontent l'histoire, on n'a pas encore tant parlé que ça, mais il y a aussi des jeux vidéo.
Il y a quand même beaucoup de jeux vidéo. À ma mémoire, si je me trompe pas, un des premiers jeux vidéo, c'était Planeswalker. Là. J'ai oublié le nom précis, là. Il y a vraiment un nom.
Non, le premier, c'est Magic the Gathering.
Oui, sur c'est Xbox, il me semble, il y en avait un.
Non, on parle de PC. C'est un jeu qui te permettait de jouer à Magic. C'est un peu comme le Magic Online maintenant. Le problème, c'est que je ne me rappelle plus si on pouvait jouer. Moi, je n'avais pas joué à l'époque. Je pense que tu jouais comme un bot tout le temps.
Le premier, oui, puis après ça, il y a eu un jeu un petit peu plus aventure.
Ouais, sur PlayStation 1, je pense.
Non, PC encore.
Moi, je me rappelle avoir joué un jeu sur Xbox tournant 2000.
Ouais.
Que les monstres apparaissaient, que tu voyais ton Planeswalker, que c'était un bonhomme qui était debout. Ouais. Je trouvais ça très ordinaire.
Ça a pas des jeux qui ont marqué l'histoire.
Puis là, il y a Magic Arena qui vient de sortir dernièrement.
Il y a des jeux en bêta, je pense.
Ouais, le bêta open, là. On joue quand même pas mal avec Giz. Mais il y a un problème, moi, je trouve. Et déjà, c'est sorti la polémique. Il paraît que il jouerait sur les statistiques, sur les chances de pogner des cartes, d'être Land Flood ou Mana Screw, dépendamment si tu gagnais les games d'avant. Déjà, il y a comme un problème sur le luck factor, mettons, qu'il trafiquerait la chance. C'est un petit peu ce qui me chicote, moi, dans les versions du jeu en ligne et informatisé. Mais je pense que c'est super important parce que depuis, le wording s'améliore et ça, c'est important. Le jeu est de plus en plus solide.
Qu'il y a de moins en moins d'interprétations.
C'est ça. Ouais. De plus en plus, les machines peuvent jouer contre elles et là, on va avoir un vrai jeu qui se tient avec...
C'est ça. Ça devient de plus en plus 1984-esque.
Ouais, en tout cas, mathématiquement, l'équation devient mathématiquement plus...
Le premier jeu vidéo, c'était en effet Magic the Gathering, et c'est celui-là où est-ce que c'est sur Chandalar.
Ouais.
Faut qu'on plante 5 magiciens qui représentent les 5 couleurs. Là. Fait que là, tu te promenais, puis là, tu te battais contre des rats, puis là, tu ramassais des cartes, puis là, tu créais des decks. Là.
Les hosties de rats, hein?
Après ça, il y a eu pour PlayStation, puis PC, il y a eu Battle Mage, qui était sur le continent de Corondor. Il y a eu Armageddon, sur Sega, Dreamcast, et ils en ont fait un.
Ah ouais? C'est vraiment? Ouais.
Magic the Gathering, Sega, Dreamcast.
J'ai vraiment... Continue.
Mais il est sorti juste au Japon, celui-là. Ben, il y a une encyclopédie, mais le dans les plus récents, on a The Gathering Online, qui est comme celui qui même encore aujourd'hui existe encore, mais il va probablement mourir à cause d'Arena.
Parce qu'il y a juste sur Magic Online que tu peux jouer les formats de toutes les cartes. Puis la raison pourquoi ça sera jamais sur Magic Arena, c'est qu'il y a des vieilles mécaniques. Écoute, j'ai pas d'exemple précis, là, mais des vieilles mécaniques de vieux sets des années 90, début 2000. La façon dont ils ont programmé Magic Arena, faudrait qu'il fait beaucoup de fouillage dans le coding pis ça pour que la mécanique soit fonctionnelle.
Puis online, je pense qu'en plus de ça, c'est de la vraie argent, là, c'est que t'achètes les cartes avec.
Oui, mais Magic Arena aussi, là. Parce qu'à la fin Wizard of the Coast,
Oui, mais non, parce que t'achètes pas les cartes, t'achètes genre une bébelle qui fait que peux participer à.
Booster, mais tu peux pas aller acheter les cartes.
Mais moi je te garantis.
Mais le booster, tu l'achètes pas 2$, t'achètes des orbes ou t'achètes des cochonneries qui vont acheter des.
Ouais, mais c'est avec ta carte de crédit, la raison de Arena, c'est faire.
Oui, oui, non, il y a une étape de plus.
Il y a une étape de plus.
Ça a l'air nono ce que je dis là, mais c'est important cette étape de plus. Que t'es pas en train d'acheter des cartes, t'es en train d'acheter des bebelles qui vont t'acheter des cartes.
Moi, j'ai joué beaucoup à Magic Online en 2016-2017. puis effectivement, j'ai payé de ma carte de crédit des cartes.
Et je sais aussi que Magic Online, moi j'avais un ami qui jouait à ça début 2000.
Ouais.
Quand tu complètes un set virtuel, il te l'envoyait pour vrai.
Ouais, en format vie. Papier.
Ça, j'ai trouvé ça quand même hot. Je peux comprendre qu'ils ont arrêté de le faire.
Ouais.
Ben, je trouvais ça quand même assez intéressant. Ouais, c'est une bonne manière de transférer ton monde sur ton nouveau médium, si tu veux le partager. Mais moi, en fait, un gros problème que j'ai avec cette version-là de jouer au jeu, c'est bien plus le fun avec du monde autour de la table. Ça prend du monde, puis ça prend
de
la
dynamique. Moi, je pense que Magic se joue en face-à-face,
ouais.
Mais pour les besoins de l'épisode...
Tu peux toujours skyper, là. Il y a moyen. Là.
Ah ouais, dans ça.
Non, mais écoute, sur Twitch, c'est très fort... Quand tu vas dans des game stores jouer à des drafts, ouais. Là, souvent ils vont mettre Twitch sur le gros écran pendant que les gens jouent. Puis qu'est-ce que tu vois sur l'écran? C'est Twitch qui broadcast une game de MTG Online ou Arena.
Ouais, exactement.
C'est commun, puis c'est même populaire. Mm. Ben, tant mieux.
Puisqu'il
y a des gens qui jouent à Magic, mieux
ça complète l'ambiance, je suis d'accord avec ça. Sinon, au-delà des jeux vidéo, des romans qui ont rapport à l'histoire...
Juste une anecdote drôle sur Magic Online. Je parlais tantôt les mécaniques qui se transcrivent mal. Ça m'est souvent arrivé à Magic Online de perdre des games. C'est un timer à Magic Online.
Ouais.
Contrairement à quand tu joues du Magic face à quelqu'un. Parce que faut tout le temps que tu cliques pour les triggers, ces choses-là.
Okay.
J'ai souvent perdu des games, des decks de contrôle où il fallait que je faisais des loops, là. Il faut que tu l'effet de ta carte. Ça m'est arrivé souvent de perdre des games à cause de le style timer, qui seraient pas des choses qui arrivent dans la vraie vie, parce que tu lis rapidement la carte à quelqu'un. Fait que ça, c'est drôle parce que ça fait en sorte que t'as certains decks en vrai que tu peux pas jouer sur Magic Online, parce que tu vas 3 games sur 4, tu vas en perdre parce que t'as time out. C'est très commun. Puis j'ai gagné des games. Ça, je suis pas fier. Des fois, dans des tournois à Magic Online, je me rappelle, là, je voyais que l'autre, son deck, il allait bien. Tu sais, il restait genre 3 minutes, parce que c'est le timer de son bord, tu sais. Il restait comme 3 minutes. Fait que là, je pensais à des façons. Jouer mes cartes en fonction de qu'est-ce que ça. Ouais, il compliquer la vie puis perdre du temps.
Ben, je pense pas que c'est triché
ou. Non, mais c'est pour ça que c'est différent.
Ouais, voilà, ça c'est sûr.
Mais c'est très rare quand même, ça arrive. Faut toujours des decks de contrôle.
On s'entend. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un band qui fait des musiques sur Magic the Gathering? Genre,
ça serait cute, mais pas à ma connaissance.
Ça prendrait ça.
Il y a plein d'autres jeux qu'en effet, il y a des bands par rapport à ça, mais
il y a eu des bébés, là. On se leurrera pas que Magic the Gathering, Wizards of the Coast, c'est eux autres aussi qui ont fait le jeu de cartes de Pokémon. C'est un spin-off de Magic aussi. La dynamique de taper le mana, d'utiliser l'énergie, c'est la même affaire. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi?
Ben eux, ils tapent pas, là, c'est que tu l'associes au Pokémon. Tu prends le mana, tu le colles au Pokémon. Puis là, c'est le Pokémon. S'il y a deux, ben il peut utiliser ce power-là.
Ah, ok.
Fait que dans le fond, c'est pas un pool d'items d'énergie que tu te permets de faire à plusieurs personnes, c'est que tu peux juste avoir un Pokémon, peut-être deux à cette heure, parce que dans les jeux, tu peux en avoir deux, là, mais je pense que c'est un que tu colles des manas dessus. Fait que tes lands, si tu veux, tu les associes, puis quand ils meurent, ben ça s'en va avec. Là. Mais tu peux aller rechercher, évidemment, t'as des cartes genre Energy Retrieval, puis tout ça, fait que tu peux aller rechercher des powers. Ça, là, mais...
Ok, bon,
ouais, c'est Wizard of the Coast qui ont fait Pokémon. Là, fait que
c'est sûr et certain. Sinon, quoi d'autre? Il pourrait avoir des hologrammes, des bandes dessinées.
Je me rappelle d'avoir lu un livre quand j'étais jeune.
Moi, je conseille à tout le monde. On parle des romans, là?
Ouais, ben c'est
vrai. Perdez
pas votre temps avec les comic books.
Ok.
J'ai passé à travers. Littéralement.
C'est pauvre vieux, pauvre vieux.
Il a fait ça pour nous autres.
Il a fait un planeswalker qui s'appelle Dick Fiden. C'est le plus grand voleur du multivers. C'est un planeswalker bleu-noir.
Puis il est rendu aujourd'hui.
C'est ça, c'est vraiment drôle. Il était dans plusieurs sets là, comme carte. Puis on avait fait un comic book tie-in aux alentours de 2014. C'était sur Terros. C'était le comic book de Terros. Puis écoute, ça a tellement pas bien été cette production-là que le numéro 1, tu sais, le numéro 2, le numéro 3, tu sais, chaque comic book sort. Puis là, le comic book 4. Puis là, c'est comme t'es proche de la fin du punch, tu sais. Puis là, t'attends le numéro 5.
Puis c'est ça, on va l'attendre.
Puis il est jamais sorti. Puis là, j'ai fait une recherche. Puis finalement, ils avaient discontinué la ligne. Tu sais, ils avaient même pas eu le temps de finir l'histoire.
Ah oui, ils ont dit ça sert à rien.
Ils ont même pas fait un raccourci.
C'est pas vendu, pas en tout. Ouais. Dans les années 90, ils avaient sorti beaucoup de comic books. De Magic, notamment Ice Age. C'est pas bon. Perdez pas votre temps avec ça. Sauf peut-être le comic book de Ice Age, il est quand même... Je vais mettre une image en dessous du podcast, là, vous allez pouvoir les voir. Je trouve que c'est la façon la plus géniale qu'ils ont représenté dans un format de comic book. Un magicien qui fait de la magie.
Ok.
Ça se décrit très mal au micro, Mais j'ai vu ça à nulle part, peu importe dans quelle culture. Là, vous allez voir sur
l'image. Genre une boule de feu autour de lui.
La boule de feu, là, le dessinateur, il monte, là, ça part de la montagne, le mana qui arrive sur le magicien. Okay. Ça fait des genres de sigles. En tout cas, c'est vraiment beau sur,
voilà.
Dans un comic book. Okay. Puis ça, c'est un concept que quelqu'un devrait...
Ça me fait penser, avant que tu ailles parler romans, il y a quand même une industrie de revues qui s'est créée autour de ça. Il y a eu le magazine Scribe
qui s'est créé autour de Magic.
C'est là-dedans que...
Ben, en fait, on avait parlé l'autre épisode des sites web, c'est Scry, c'est le magazine officiel de Magic, qui
voilà.
Est sorti en 85, je pense qu'il avait commencé à faire. Puis dès que Internet est arrivé en masse, j'ai mentionné Channel Fireball, les podcasts, nous-mêmes, tu sais, les revues en papier, je pense plus qu'il y en a, parce que
okay. Ben, ça vaut plus la peine d'en parler aujourd'hui, là, c'est
notre. Mais en ligne, les gens qui écrivent, qui font des sites web, moi, il y a des sites web qui marchent très fort, puis ils font juste écrire sur Magic.
Ouais.
Tu sais,
et voilà.
Puis ils font de l'argent avec ça, là, t'sais. Les romans, c'est la même chose. Back in the days, dans les années 90, ils ont sorti plusieurs romans. Moi, je conseille aux gens, s'ils peuvent lire, c'est la trilogie des artefacts puis la trilogie de l'Ice Age. Brothers War, qui est le roman qu'ils ont fait sur la guerre entre Uzra Mishra dans le Set Antiquities. Ils ont fait un roman
là-dessus. Les parents doivent pas être contents, là, de ça.
Brothers War est dans mon top 5 de romans ever.
Ok, que t'as tout, lu,
que,
là.
Que j'ai lu.
Ouais, avec 1984.
Moi, c'est Les Rois Maudits, 1984.
Fondation.
Oui. Moi, c'est La Cave de Métal que je préfère, mais bon.
C'est parfait.
Dune. Mais tu sais, Brothers War, je trouve que ça punch.
Voilà.
Dans cette catégorie-là, il est peu connu parce que Magic à l'époque était moins joué. Les gens, ils jouent à Magic, ils vont pas les
est-ce que c'est tout le temps la même personne qui écrit chacun de
ces romans? Non, c'est non. Ça, voilà, il y a eu plusieurs auteurs, puis c'est pour ça que la qualité a dû.
Mais c'est un peu comme les romans.
Brothers War, c'est Jeff Grubb, okay. C'est lui qui a fait Forgotten Realms puis Dragon.
Ouais, c'est ça. Okay. En partie, parce que c'est pas. Non, mais chacun a comme nom, tu sais, comme...
Non, mais je pense que je parle des romans de ces
sites-là.
On n'ira pas dans ça,
mais bon, Brothers War vaut la peine des plus.
Et ça, l'ordre, c'est pas comme... peut-être ça pourrait être un sujet plus tard, mais ils font pas un set en s'inspirant du roman.
Non, c'est l'inverse. Là, c'est pour ça que des fois, c'est la qualité est inégale, parce qu'on dirait que le roman, c'est... je vais plugger le plus de cartes
possible. Ouais, c'est ça.
Ouais.
Puis là, des fois, ça fait vraiment...
C'est un peu comme un film basé sur un jeu vidéo. Là,
ouais,
c'est
fois,
souvent
il,
ça.
Il,
là.
Fois, il faut,
c'est ça,
il
essaie de compacter quelque chose qui dure 45 heures à faire sur 2 heures.
Ouais, ouais.
Fait que là, c'est confus.
Juste dans le roman, comment qu'il arrête le Ice Age, décrit un combo de Magic.
Ouais.
Ouh. T'as la carte dans Alpha qui est Leyland Druid.
Ouais.
Il y a une tape, je pense.
Ouais, tu peux en taper des landes.
Tu peux payer un, il y a une tape.
Ouais.
Et là, il décrit ça dans le livre. Là, puis là, il met un Wild Growth dessus. Non, sur une forêt, Wild Growth, enchantement, quand tu tapes le land, enfin, il fait 2 mana. Ouais. Le Leyland Druid, on tape le Forest.
Okay.
Il fait infini de verre.
Il découvre.
Puis là, il casse un Stream of Life. X colorless, un verre, gain ouais. X life. Puis là, c'est comme ça que le Ice Age
se termine, ouaf.
Mais quand tu lis.
Avec un petit de l'eau.
Là, tu lis ça, pis t'es comme.
Nya. Nya. Oui, effectivement.
Mais.
Moi, je tiens à dire que j'en ai un livre. Chez moi, là. Je me rappelle pas. Il me semble que c'est noir.
Tu amènes ça pour l'épisode
9. Ça a l'air noir, là. Ça a l'air d'être un voleur.
Ouais, ouais, pour l'épisode
9. La semaine prochaine, là, tu nous ramènes ça.
N'oublie
pas.
Et voilà, c'était notre bloc sur les médias alternatifs de ce 8e terrain basique. Ça va nous amener à la carte de la semaine. Écoutez ce que Bond nous a fait. Juste après, vous allez être surpris. C'est avec plaisir que je vous présente la carte de la semaine qui est devenue une icône par chez nous.
Oui.
S'il te plaît, Andy, t'as sorti les quotes, les flavor text. Je pense qu'on va commencer avec ça. Ouais, les
c'est
deux,
le jeu
si
de devinette. Devinez quelle carte.
Ouais,
ok, fait que je fais juste décrire.
Parle pas du casting costarien, juste le flavor text.
Tout le monde sait que l'on touche du bois pour éviter le malheur. Mais mieux vaut s'en servir pour construire un mur qui vous protégera de l'ennemi.
Et voilà, une des éditions de la carte en question. Est-ce que tu as l'autre?
Ah, tu veux aussi? Que j'aille chercher une autre édition?
Bon,
ben oui.
Pendant que tu y vas, en fait, c'est une carte qui date de tout début de Magic.
Premier set.
Et moi, quand j'ai commencé à jouer, il y a beaucoup de gens qui en avaient dans
quand
leur booster quand on ouvrait.
Oui, c'est une commune.
Et personne jamais ne joue avec ça, ever, de toute l'histoire des temps.
T'es prêt pour l'autre?
Oui.
On y va. Les bûcherons orques passèrent la nuit à aiguiser leurs armes et à se reposer en prévision d'une rude journée de labeur. leur réveil et se rendirent compte que la forêt aussi s'était préparée.
Et voilà, mesdames et messieurs, la carte de la semaine, c'est le Wall of Wood.
Un mur de bois.
Un verre Defender 03. Cette carte-là, quand j'ai commencé, il y en avait partout à Val d'Or. J'ai décidé à un moment donné, donnez-moi-les, je vais les garder. Et avec le temps, c'est devenu ma carte. À un moment donné, je me suis dit, je vais faire le tour des magasins à Val d'Or. Ouais. J'ai acheté toutes les Wall of Wood de Val d'Or, à ma connaissance à l'époque. Puis ce qui est plate, c'est qu'ils l'ont réédité pour la 10e. Ça, je suis vraiment pas content.
Ouais.
Mais pourquoi? Quelle est toute cette haine? Pourquoi vous l'aimez pas, cette carte-là? Pour quelle raison?
Ça sert à rien.
Parce qu'il y a le meilleur wall dans les autres éditions.
Mais qui coûte un?
Oui, des pouvoirs. Il y a le Wall of Timber de Ice Age qui coûte un vert. Il est 0-3 Defender. Tu peux payer un rouge et le sacrifier pour faire 2 de dommages à une créature qui attaque. Ou tu peux le sacrifier et avoir 2 mana rouges.
Mais
tu ne le mets pas dans ton deck.
En Mirage, il y a Wall of Roots, qui est une des cartes les plus jouées, même en Legacy.
Ouais.
Un colorless, un vert, c'est un 0...
Reach.
Wall of Roots,
non? Wall
of Roots, c'est
0-4.
Tu peux la taper pour y mettre un counter moins 1.
0-5, en fait.
Ça crée un...
Mana vert.
Fait que ton wall, il produit du mana.
0-5 qui produit du mana.
Tu sais, comme Wall of Wood, là...
C'est pas bon.
C'est pas bon. Mais combien t'as... Là, de continuer ta
carrière. Je dirais, en fait, ça fait quelques semaines, il y a un gars qui est venu ici, il s'appelle Émile, et il m'a connu sur le jeu C'est Sérieux, et il sait que je collectionne les Wall of Wood, qui sont à moi. D'ailleurs, il y a toutes sortes de monde qui m'en envoie par la poste.
C'est le Père Noël d'envoyer des Wall of Wood?
Ben oui, c'est ça. J'en reçois d'un petit peu partout. Et ça, c'est important, parce qu'ils sont à moi. Il y a eu un problème à distribution. En fait... Il y a deux histoires que je veux compter. Émile est venu les compter dernièrement.
Oui.
Et moi, je pensais que j'en avais autour de 1500, 1600. Présentement, je dois être autour de 2550. Ils sont sur une belle tablette. J'irai te montrer ça tantôt.
Ah, t'as une tablette pour les Wall of Wood?
Pour les Wall of Wood. Sinon, je suis allé, il y a quelques semaines aussi, faire le tour de la Rive-Nord, Saint-Eustache, Sainte-Thérèse. Je suis allé à tous les magasins et je suis allé leur demander toutes leurs Wall of Wood. Celui à Saint-Jérôme, il est au Play and Machin, là j'ai dit je vais avoir toutes tes Wall of Wood, il dit ah ouais, pourquoi tu veux tout, t'es au courant de quelque chose que...
C'est ça, il a dit
t'as-tu un nouveau combo, c'est ça,
une stratégie.
Ah ouais, qu'est-ce qui se passe,
il y a une carte magique qui dit comme if you have more than that Wall of Wood, you win the game.
Là je l'ai regardé et j'ai fait non, c'est...
Elle a dû dire oui.
J'ai un petit peu raconté l'histoire que c'était à moi, c'est ça, j'ai collectionné, le gars y a ri, il me les a vendus, voilà, je suis autour de 2550. Wall of Wood, une carte que personne n'utilise et qui est pourtant à moi. N'hésitez pas à me les renvoyer au Musée de l'Absurde, 1803 Saint-Christophe, H2L3W9. Il y aura pas de suite légale, là, je vous poursuivrai pas.
Mais peut-être qu'ils vont créer... quelque chose qui va booster.
Plusieurs personnes m'ont dit, tu sais pas, peut-être que... Et dernièrement, en fait, ils ont sorti une carte, je pense que c'est 2 verts, un colorless, c'est un enchantement qui fait que tous tes monstres Defender peuvent attaquer tous tes monstres font leur dommage avec leur toughness.
Oui, parce qu'ils ont réédité un des Elder Dragon de Legend.
Ah, aussi, il y a une autre version qui fait ça.
Arcade Sabot, et dans le Court 2019 sorti cet été, il fait que tu peux attaquer avec tes Defenders. Il donne du dégât avec les...
Puis il y a Trent aussi qui fait ça, un arbre vert.
Ah, c'est Siege Tower.
Ouais, Siege Trent, là.
Darren de Siege Tower.
Voilà. J'avoue que toutes ces affaires-là que vous venez de raconter, c'est en sac parce que si t'es capable de te payer elle, tu vas pouvoir te payer les meilleurs.
Exactement, parce qu'il y a des Wall 03 qui coûtent un verre avec des pouvoirs à place de.
T'es comme t'as même le Wall of, je sais pas trop quoi, là, qui est comme 07.
Ouais, okay. Wall of Ice.
Oh, merci, Wall of Ice.
Colorless bleu, 07.
C'est ça, 7-7.
Non,
ouais, mais ça devient 7-7 dans le sens si tu
c'est deux Colorless, un verre, puis c'est Wall of Ice, c'est dans le verre.
Ah oui,
puis il y a.
Fait que c'est 3 fait, pour
mais 7. Wall of Ice existe aussi.
Mon préféré pour ça, je pense, ça serait le. J'ai oublié c'était quoi son nom, mais c'est un colorless, un rouge, et c'est un Wall 06 pour 2 seulement.
Ouais.
Donc, fait que là, ça commence à être musclé, et ça peut justifier de se faire un deck de Wall qui doit tout le temps gagner à cause du même combo et être super plate à jouer overall. Mais bon, ça n'empêche pas le Wall of Wood d'être ma carte de la semaine cette semaine.
Si je peux closer là-dessus, oui. J'ai juste souligné que dans, vous l'avez probablement rendu compte avec tous les drafts que vous avez fait cet automne, mais dans Guilds of Ravnica, il y a beaucoup de Wall, de créatures qui ont Defender, puis de cartes qui sont affectées par
les Defenders.
Fait que tu peux drafter un deck de War sans avoir aucune gêne. Je l'ai fait.
Laisse-toi, fais comme moi.
J'ai pas gagné, mais c'était pas si pire.
On lui souhaite bonne chance.
On lui souhaite bonne chance.
Sujet de la semaine, on a décidé de développer sur la relation de Nicole Beaulat et de Gatewatch. On a-tu assez d'une dizaine de minutes pour parler de ça?
Ouais, rapidement. Bon, comme on avait déjà mentionné, Nicole Beaulas, le dragon qui lit des livres dans le vieux set de Legends en 1994. Comme Andy dit à propos de Nicole Beaulas.
Mais est-ce qu'il était-tu prévu pour être le méchant dans
non,
le
non, temps? Non, c'est
ça. Il était juste un des cinq Elder Dragons.
Ouais, c'est que les Elder Dragons étaient vraiment populaires. Ouais. Puis quelques Magic, on dit on a besoin d'un vilain récurrent. Ils ont décidé d'en faire un Planeswalker.
Ça leur tentait pas de capitaliser sur les 5 Elder Dragons? C'était cool, ça.
Ah, mais ils sont pas disparus.
Ils sont pas disparus.
Ah, je pensais qu'ils étaient tous morts, les 14.
Ils ont été refaits dans Core 2019.
OK, mais ils sont morts ou ils sont pas morts? Pourquoi qu'ils laissent
Nicole Beaulas? Non, sont dans l'histoire, ils sont morts. Mais le Core 2019, ça se passe dans le passé. Fait que ils font encore des cartes de eux. Mais dans le storyline, ça va me prendre...
Bien, anyway, c'est quoi mourir, sinon changer de plan de réalité?
Voilà, mais
c'est vrai que si tu t'en vas dans le graveyard...
Core 2019, c'est un set à propos du Elder Dragon War. Puis les comic books des années 90 portaient aussi sur la guerre.
Ouais, ben, c'est, ça,
c'est vraiment pas bon, ça me tente pas de rentrer là-dedans.
Non,
bref, Nicole Beaulas, ils l'ont ramené. C'est le vilain récurrent. C'est de l'air lui qu'il y a tout... les mauvais coups. Son but, en fait, comme j'avais mentionné, les Planeswalkers autrefois étaient plus puissants. Dans les événements du set de Time Stream, ils ont perdu la plupart de leur pouvoir. Nicole Beaulas veut revenir comme c'était dans le temps. Fait que son plan comporte 4 étapes. Ça, on va y aller rapidement. On sait pas encore c'est quoi le but ultime, ça va encore être dévoilé, mais on sait que ça a rapport avec Ravnica. Parce que apparemment il veut envahir Ravnica ou quelque chose genre. Les prochains sets vont nous l'expliquer.
Ouais, ouais.
Dans le set de Kaladesh que nos auditeurs ont probablement drafté il y a 2 ans, c'est un set style hindou steampunk, c'est la meilleure façon de le dire. Wow. Il y avait la mécanique d'énergie, ça comptait beaucoup sur les artefacts. Dans l'histoire-là, t'avais Tezzeret, qui est un autre Planeswalker, qui travaille pour Nicole Beaulas. Il est allé sur Kaladesh, puis il a réussi à faire en sorte, vu que c'est un plan d'une planète d'inventeurs, ils ont inventé un portal, parce que dans Magic, il y a juste les Planeswalkers qui peuvent
changer de plan.
Changer ouais, de plan.
Parce que ça s'appelle des
Planeswalkers.
Et voilà.
Des marcheurs de plan.
Fait que les inventeurs sur Kaladesh ont créé un portal. C'est la carte qui s'appelle Planner Bridge. Ça coûte 6. Vous tapez un artefact. Vous tapez, je crois que c'est 7, ça permet d'aller chercher une carte dans ta librairie, de la mettre en jeu.
Oh!
Carte mythique. Donc, là, il y a son portal. Le problème, puis là, dans l'histoire, c'est que ce portal-là, les matières organiques ne peuvent pas traverser.
OK.
C'est là qu'on rentre dans la deuxième partie du plan de Nicole Beaulas. Nicole Beaulas, sur le vous avez probablement drafté à Monquette et Hour of Devastation.
Ça, c'est hâte.
C'est le plan égyptien de Magic.
Mais il y a plein de chats trop forts.
C'est vraiment Magic, elle dit, on va faire un plan basé sur l'Égypte. Ce plan-là, c'est d'inspiration égyptienne. C'est un plan où, dès que quelque chose meurt, elle revient en zombie.
Il peut se faire momifier.
C'est pour ça que les gens sont momifiés. Ça les empêche de... Ça permet de contrôler les zombies.
Ah, OK.
C'est pour ça qu'il y a des zombies blancs, à mon cas.
Ouais, j'ai trouvé ça surprenant.
Ouais, puis c'est une façon qu'ils ont trouvé d'avoir des zombies blancs. Les zombies blancs, c'est les momies. Zombies, c'est noir. Blancs, c'est des momies.
Mais ils l'ont refait aussi dans...
Non, c'est juste à mon cas qu'il y a des zombies blancs.
Ah non, c'est des vampires dans... Oui.
Ouais, ça c'est dans Ixalan,
c'est des vampires.
Je vais y arriver. Non, mais sur Amonkhet, ce plan-là, Nicole Beaulas en a pris contrôle. Il a élevé un culte de dévotion envers lui. Et sur ce plan-là, les habitants de ce plan passent leur vie à se préparer à la mort.
Okay.
Ça s'appelle les Trials. On s'appelle, dans le drafting d'Amonkhet, il y avait les cartes, les Trials, c'est des enchantements qui faisaient des affaires spéciales quand tu arrivais à certaines conditions.
Ouais.
Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que Nicole Beaulas, les gens qui meurent sur ce plan-là, allaient ensuite dans les meilleurs, ceux qui ont réussi à atteindre, qui ont fait les 5 Trials, chaque couleur à son Trial. Il y avait, chaque couleur avait son dieu, puis la job de ces dieux-là, c'était de guider le bon peuple.
Leur survivant.
Ouais, c'est basé sur la mythologie égyptienne.
Mais voilà, parce que dans la mythologie égyptienne, aller vers la mort, le plus léger
possible. La plus
pour que ton
des cœur morts,
soit plus léger qu'une plume. Là.
Ouais.
Ben, en réalité, c'est devant le Nicole Beaulas
qui a fait. Tout, c'est sûr qu'il a triché.
Là, c'est ça. Le trick derrière ça, c'est que ça crée l'autre mécanique de Hour of Devastation, c'est les Eternals. C'est des zombies qui sont 4x4. Puis qui n'ont plus de matière organique parce qu'ils sont recouverts de l'azotep. le mot qui revient souvent quand tu suis le storyline de Amonkhet. Okay. Bref, Nicole Bolas s'est construit une armée quasiment des robots. Là. C'est des zombies 4x4 noirs, très forts. Godfarrow GIF, qui est un artefact. Ça l'a dominé le standard depuis 2 ans. 7 colorless. Tu y as goûté, Tommy, quand on a joué l'autre jour. Ouais. Chaque tour, tu prends une carte dans ton graveyard puis tu la ramènes en zombie 4x4. Fait que dans le fond, comme toutes tes créatures...
N'importe quelle carte. OK, des créatures. Okay.
Mais c'est très, très, très fort. Amonkhet est un setting basé sur le graveyard. Fait que là, on comprend que dans le fond, Nicole Bolas a son portal. Son armée de Eternel, les Eternals.
Fait qu'il va aller péter.
Puis là, il va aller péter. On sait pas pourquoi faut qu'il va sur Ravnica. Le dernier élément qu'il avait besoin à son plan, Immortal Sun, le soleil immortel. Ça, c'est le setting de Ixalan qui est sorti en 2017. Puis hiver 2018, c'est le setting avec des pirates puis des dinosaures.
Des conquistadors.
Beaucoup de dinosaures.
Fait que dans ce setting-là, tout le monde est à la recherche de la Horasca, qui est comme les cités d'or. C'est les tropes de conquistadors.
Ah, oui, ben
si
oui,
vous avez
ben
écouté
oui.
les cités d'or, vous comprenez que ça l'a.
Avec les 5 Elder Dinosaurs.
Ouais, puis tu sais, c'est le trope de le nouveau monde, mais les dinosaures sont encore en vie là. La façon dont on arrive sur cette-là, c'est que le Gatewatch, ça c'est la façon que Wizard of the Coast veut capitaliser sur la popularité des Avengers, les films de super-héros pis ça. En 2015, ils ont décidé de créer le Gatewatch, c'est-à-dire ils ont pris 5 Planeswalkers, un par couleur. Ça deviendrait comme des super-héros, bref.
Ben comme les incarnations, là, les références de...
Ouais, pis c'est des Planeswalkers qui sont quand même good, ils font un hôte, serment. Donc depuis 2015, chaque set a son nouveau Planeswalker qui fait un hôte of...
Okay.
Le nom du Planeswalker.
Okay.
Comme dans Kaladesh, c'était Out of Ajani. Dans Innistrad, c'était Out of Liliana. Fait que chaque membre des Gatewatch, c'est qu'ils se disent que ils ont vu toutes les affaires bad qui sont arrivées dans le multiverse. Puis ils ont dit,
à cause des plans
de Nicole Bolas.
Ben, ouais. Va-t-il en avoir un pour Ravnica ou ça n'a rien à voir?
On va le savoir.
C'est une surprise.
J'arrive, mais tu vois, là, les Gatewatch, ils font le ils viennent out of the Gatewatch. C'est, dans le fond, c'est
les cinq, là, c'est Chandra dans le rouge, Chandra, Liliana dans le noir, Gideon, Jace le dans le bleu.
Teferi bleu.
Non, c'est le premier. Lui qui a l'idée, c'est Gideon. C'est le dude blanc.
Je pensais que c'était Ajani, moi, ça.
Ouais, l'espèce de Ajani,
c'est lui, celui qui l'a banni jadis.
Le blanc vert.
OK.
Fait que t'as Gideon, qui est le Planeswalker blanc.
Qui est le
loyal bon, ouais, là, tu sais, c'est le gros douchebag.
Activate Hero Shield.
Ouais, pis son seul pouvoir, c'est qu'il est tout le temps indestructible.
Son seul pouvoir, c'est juste ça.
Ben, je pense qu'il est Planeswalker.
Ouais, ouais,
c'est vraiment ça, son seul pouvoir, c'est ça.
Il est moralement là, tout le temps.
Oui, il est moralement, pis là, il décide, il dit, moi, c'en est fini, Nicole Bolas, pis là.
Tout à fait.
Tu sais, fait que là, je vais créer le Gatewatch, on va devenir les gardiens du multivers.
Ah, c'est cute.
C'est comme les Avengers, là. Là, il demande à Jace, qui est le Planeswalker bleu, qui habite sur Ravnica. Jace, il est devenu le Guild Pack des Azorius.
OK.
C'est comme le top des... C'est pas le chef des Azors, mais en tout cas, dans le setting Return to Ravnica, à la fin de... C'est dans le troisième set, il devient l'arbitre suprême là, de ces lois-là. Puis il faut qu'il veille... En fait, c'est qu'il est non aligné, il veille à l'équilibre entre les deux.
OK.
Fait qu'on va retourner vers lui.
Ben, c'est sûr que ça va finir avec ça. Ça par son rapport, on revient sur...
Ça va être out of
Puis lui voit ça, il veut... Tu sais, ça fait partie de sa job de Guild Pack. Là, c'est comme Nicole Bolas, c'est un danger pour Ravnica. Après ça, ben, t'as Chandra, l'adolescente, pyromane, qui met le feu partout.
On se reconnaît tout là-dedans.
C'est particulièrement elle. Moi, je suis super borderline comme elle.
Elle les aide. Après ça, t'as Nyssa, qui était l'elfe vert dans cette de Battle of Zendikar.
Ah, c'est une elfe, finalement.
Nyssa, c'est une elfe. Oui, en quoi
Mais son storyline, à un moment donné, on fera un épisode sur elle.
Ben oui, ben sur les cinq,
quand Tommy va être absent, ça va être l'épisode.
Ces cinq-là, ensemble.
Puis Liliana Vess. Liliana,
c'est la noire.
Elle, ses motivations, j'aime ça parce qu'elle a fait un pack avec des démons.
Ouais.
Puis elle se dit, hey, si je manipule le Gatewatch, ils vont pouvoir péter mes 4 démons.
C'est ça, ils vont
Une des raisons pourquoi le Gatewatch va sur Amonkhet, parce qu'il y a un des 4 démons de Liliana qui s'appelle Razaket, qui est un démon crocodile.
Ah, puis que là, il est dans la place égyptienne.
Il est sur la place égyptienne, c'est un henchman de Nicole Bolas. Là, c'est comme lui qui gère la place en son
C'est vraiment hot que toutes ces histoires-là se mélangent.
Puis là, c'est ça, tu sais, Liliana a dit au Gatewatch, on va aller péter. Nicole Bolas sur Amonkhet, wink wink.
Ouais, ouais.
En réalité, c'est qu'elle sait qu'il va y avoir Razaket là-bas.
C'est ça. Pis... les noirs, hein.
Ouais. Fait qu'elle réussit à faire tuer Razaket. Le problème, c'est que quand Nicole Bolas se pointe, c'est là qu'on a le cycle des cartes des Jace Defeat, Liliana Defeat, Chandra Defeat, Gideon Defeat. Ils mangent une volée. Si vous avez la chance d'aller lire le story, tu sais, on a parlé des romans au début, mais c'est le story, googlez Hour of Devastation Story. C'est une histoire sur, en ligne sur le site de Wizard of the Coast. C'est là que Bolas arrive, puis il pète chacun des... La façon dont il réussit à péter Gideon, parce que Gideon est indestructible, c'est que pendant qu'il est occupé avec les quatre autres, avec sa queue d'immense dragon, il tape constamment sur Gideon, fait que ça le garde à terre tout le temps, puis il dit, tu sais, je suis immortel, ça fait 30 000 ans que j'existe, je peux continuer longtemps. Puis bref, fait que là les Gatewatch mangent une volée puis sont obligés de battre en retraite. Jace, c'est le Planeswalker bleu. Nicole Bolas, il décide de le mind raper là, carrément là. Il dit à Jace, je suis capable de te rendre amnésique. Il fait une genre de grosse attaque mentale. Jace Defeat, c'est un counter blue spell qui coûte 1, c'est Hydroblast dans le fond qui est réimprimé.
Ouais,
dans...
okay.
Fait que c'est comme ça que Jace se fait péter. Jace devient amnésique. Il y a juste le temps de planewalker pour se sauver, puis il se ramasse sur le plan de Ixalan. C'est là que t'as la carte Jace Castaway.
Okay.
C'est le trope du gars qui est perdu sur une île déserte.
C'est Robinson Crusoe.
C'est Robinson Crusoe.
Mais sauf qu'il a perdu la mémoire.
Il a perdu la mémoire, il sait pas qu'il est un planewalker.
Oh là 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 là, puis j'ai des frissons!
Éventuellement, dans l'histoire d'Ixalan, il retrouve sa mémoire, mais c'est qu'il se rend compte que il est pas capable de s'en aller d'Ixalan.
OK.
Parce qu'il y a quelque chose qu'il garde là. Ça, c'est le Ixalan Binding. Enchantement, deux colorless, deux blancs. Name a card, target player cannot play the card.
Fait que là, il peut pas faire son spell pour s'en aller.
C'est ça. C'est un truc sur Ixalan, c'est le dernier casse-tête que Nicole Bolas a besoin. Immortal Sun. C'est un artefact qui coûte 6 colorless. Ça, c'est très fort, je le joue en commander. Jouer cette carte-là, elle a 3 modes, Immortal Sun. All your creatures gain +1/+1. Planeswalker ability cannot be played.
OK.
At your upkeep, draw a card. Fait que dans le fond, tu piges 2 cartes à chaque tour.
Pour 6, puis t'as même pas à le triggerer, c'est vrai que c'est fort.
Ouais. Puis là, c'est là que t'as des révélations. Le Immortal Sun avait été créé par Azor, le créateur de la guilde des Azorius, qui est un Planeswalker Sphinx. Il avait créé le Immortal Sun pour stopper Nicole Bolas. Puis le but, c'était qu'il l'attirait dans un piège sur Ixalan. Puis Azor a sacrifié son Spark Planeswalker pour créer le Immortal Sun.
OK.
Puis dans le fond, c'est je me sacrifie, puis là... On regarde ça pour un autre épisode, là, mais c'est le set de Tarkir, c'est ça qui était le censé être pour piéger Nicole Bolas.
Okay.
Nicole Bolas, il n'est pas tombé dedans, mais il a appris l'existence du Immortal Sun, puis il a fait comme « Hey! »
Je le veux.
Je le veux. Okay. Fait que là, dans Ixalan, t'as Vraska, qui est la gorgone des Golgari,
ouais.
Le chef des Golgari, la guilde vert noir,
Ravnica,
et qui est un Planeswalker. Elle va voir Nicole Bolas, elle dit « Hey, il paraît que tu pourrais m'aider à devenir le boss des Golgari. » Nicole Bolas, elle dit « Sure, mais tu vas aller sur Ixalan récupérer le Immortal Sun. Moi, j'ai quelque chose qui va te faire en sorte que tu es capable de quitter Ixalan une fois que tu as mis la main sur le Immortal Sun. Tu vas pouvoir revenir sur Ravnica. Tu vas utiliser le
Planar Bridge. Ben voilà. Oui.
Fait que là, c'est comme ça qu'il a les pièces de son casse-tête. Nicole Bolas... Il y a un artefact qui va empêcher les Planeswalkers de quitter...
Fait que là, le problème, là, c'est que les Hindous sont trop intelligents, si j'ai bien des convaincus.
Bon, ils ont été des tours.
Il y avait juste à pas inventer de Planar Bridge.
C'est ça. Le sous-thème de Kaladesh, c'était le
tragique
de la technologie.
Ouais.
Ça va les damner, dans le fond. T'sais, plein de Nicole Bolas, on sait que c'est Planar Bridge pour amener son armée d'Éternel. Mm.
Bon. Et voilà, donc ça va s'en venir dans le Ravnica qui s'en vient.
Allégiance,
on va en savoir plus. Et voilà. Printemps. Je pense qu'on va arrêter là pour cette semaine. Moi, j'adore ça, écouter cette histoire-là. On pense que la prochaine fois, on va recommencer au début tout ça. Pourrais-tu de rien manquer? On avait parlé un petit peu de Ice Age et tout. Ouais. Pour cette semaine, ben voilà. Mais merci beaucoup, Jason.
Un plaisir.
Merci beaucoup, Andy.
Un plaisir.
Je te laisse le mot de la fin.
Oui, allez sur notre page Facebook, likez, Terrain Basique. On est rendu à 8. C'est un bon marathon bien commencé.
Exactement.
À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, tout le monde.
Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@commercialicloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.